rédempteur. Protège-moi du méchant, ce tueur et ce grand menteur, tentateur et chef trompeur. Que ton esprit me garde, que jamais je ne dise. Oh, si je savais.
CBC Makepe Israël, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Le savoir devant nous rassure, la gloire qui couvre nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans sa main.
Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et je leur donnerai un cœur de chair, dit le Seigneur, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur abomination et à leur honneur, horreur, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, oracle du Seigneur l'Éternel.
Avec tes rachetés, je m'y emmène.
Nous vous souhaitons la bienvenue à l'écoute de cette émission, chers auditeurs, au rythme de Dieu. Alors qu'il est 20h30, passé de 3 minutes dans ce studio de la Radio Vie Nouvelle, la 107.8, c'est sur la fréquence de vie.
Tu es pour nous le bon berger, le thème de notre...
Ce mardi 4 mai de l'an de grâce 2010, nous vous souhaitons la bienvenue à vous qui nous écoutons. Ce soir, nous allons parler de la jalousie, nous allons parler de ce thème, nous serons entretenus par le pasteur Emmanuel Koum. Au travers de cette émission qui vous entretient, qui vous exhorte, qui vous accompagne dans votre marche quotidienne avec le Seigneur, afin que vous soyez prêts et préparés à toute bonne œuvre selon la Bible et que vous soyez de parfums agréables et doux en sa présence.
Tendre et véritable.
Au rythme de Dieu, c'est une émission qui est préparée et présentée pour vous par la CBC, la Cameroun Baptist Convention, la communauté Israël Makepe. Au rythme de Dieu, c'est tous les mardis, donc 60 minutes de cheminement avec le Seigneur. 60 minutes pendant lesquelles nous vous accompagnons dans votre marche avec le Seigneur ce soir à la prise de son. Noé Ngachou, qui a changé de côté, à qui nous disons bonsoir. Sur ce plateau, le pasteur Emmanuel Koum. Bonsoir, pasteur.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à Noé et bonsoir à...
Alors, je disais bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à Noé. Il faut avouer qu'on est polyvalent. On est partout. Bonsoir à William qui vient d'arriver. Que le Seigneur bénisse tout le monde et que sa grâce nous accompagne ce soir.
Amen. Ça devait être la surprise de ce soir. Nous souhaitons la bienvenue également à William. William qui vient de nous rejoindre après une si longue absence. Bonsoir William.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à Kevin de l'autre côté de la vitre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et c'est un plaisir pour moi de retrouver les auditeurs au rythme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Nous souhaitons la bienvenue à William au milieu de nous, une fois de plus. Nous souhaitons également la bienvenue à vous, chers amis auditeurs, qui nous rejoignez sur cette fréquence, la 107.8, c'est au rythme de Dieu. C'est sur la fréquence de vie de la Radio Vie Nouvelle. Vous pouvez participer à cette émission en appelant ou en envoyant un SMS au 77 96 29 29. 77 96 29 29, c'est le code d'accès à cette émission qui vous est ouverte. Nous parlons ce soir de la jalousie. Nous allons en parler avec le pasteur Manioko, mais déjà nous vous invitons à vous asseoir et à prendre place et surtout à prendre bord sur le cheminement de ce soir avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse.
La Bible déclare que le Seigneur est le roc des âges. Et le Seigneur Jésus dit encore, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Les intempéries sont venues, la tempête, le vent, mais elle est restée ferme parce qu'elle était bâtie sur le roc. Et la volonté du Seigneur est que nous puissions bâtir nos vies sur lui, en nous reposant totalement et entièrement en lui. Il dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il veut être celui qui veille sur l'âme de chacun de nous, notre esprit, notre âme, notre corps, toutes les dimensions de notre être, pour faire rayonner la gloire de son nom. Le Seigneur veut que nous puissions véritablement le connaître comme le Père, qui prend soin de nous dans toutes les dimensions de notre être, en comptant uniquement sur sa main puissante, en remettant entre ses mains nos projets, nos ambitions, nos passions, nos désirs, et n'en comptant que sur sa bienveillance. C'est pourquoi ce soir nous pouvons chanter, célébrer avec les anges et avec l'église entière que la bienveillance de l'Éternel est sans pareil. Seigneur, il vaut mieux que tout ce que nous avons vu. Seigneur, nous avons voulu bâtir nos vies nous-mêmes. Nous avons voulu être les dieux de nos vies. Mais Seigneur, nous avons compris que de nous-mêmes, nous n'irons qu'à la perdition. Nous pouvons ce soir, Seigneur, voir comment ta main puissante est venue jusqu'à nous. Et comment tu mets ta main sur tes enfants. Comment tu les bénis jour après jour. Comment est-ce que ta pourvision, Père éternel, dépasse ce que les comptes bancaires et toutes les sécurités humaines peuvent apporter. Nous voulons célébrer ton nom ce soir. Car, Père éternel, ta bienveillance est sans pareil. Bien-aimé, contemple-la, la bienveillance du Seigneur, qui t'accorde la paix, qui t'accorde la joie du salut, qui t'accorde l'assurance de la vie éternelle. Célèbre ce Dieu qui est véritable. Et laisse ses bontés combler ta vie en cette soirée. Loue ce Dieu et exalte son nom.
Seigneur, nous te célébrons ce soir. Nous te remercions pour ton amour, ta bienveillance et ta grâce qui nous a conduits dans nos voies. Nous voulons te louer parce que tu es Dieu, il n'y a point de semblable à toi. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que nous avons, Seigneur.
Oh oui, Père éternel.
La gloire de ton nom, Seigneur, se repose dans ton peuple. Reçois la reconnaissance de nos cœurs ce matin, ce soir, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos vies, ô Dieu de puissance, pour tout ce que tu manifestes pour nous. Merci, Seigneur, pour Jésus qui est mort sur la croix. Merci pour le sang, merci pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur, pour ta puissance que tu manifestes pleinement en l'éternel que tu puissant. Il n'y a point de semblable à toi, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Gloire et louange à toi, Père du ciel des siècles. Au nom de Jésus.
Oh Seigneur, béni sois-tu pour sa bienveillance qui nous accompagne chaque jour.
Oh Seigneur Jésus.
À chaque instant, Père éternel, nous pouvons nous arrêter.
Devant nos voix pour remercier.
Je peux, Seigneur, te contempler.
Tout ce qu'il a fait dans nos
vies. Me rendre compte encore, Seigneur, combien de fois tu es bienveillant envers moi.
Sa bonté.
Chaque seconde, Seigneur, qui passe, n'est que démonstration, Seigneur, de ta présence.
Suivant son voie.
Oh, béni sois-tu, Seigneur, éternité. Glorifie ton nom encore. Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Béni sois-tu, notre Dieu.
Ce que ça veut de nous donner.
Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta bonté. Merci pour toi. Père éternel, ta présence.
Merci Jésus.
Ta présence, Seigneur, qui vaut mieux que toute autre chose. Seigneur, parce qu'en ta présence, nous sommes réellement rassasiés. Seigneur, nous sommes comblés au-delà, Seigneur, de toute chose. Merci parce que tu es présent au travers des saisons.
Merci Seigneur. Seigneur. Merci.
En Jésus-Christ.
Amen. Seigneur, te remettons la journée, la soirée d'aujourd'hui. Nous te prions d'être avec nous, Seigneur. De nous remplir de ta puissance et de ton esprit. De remplir ceux qui nous écoutent de ton esprit. Et que ta bénédiction, Seigneur, nous accompagne au nom de Jésus. Amen.
Ensemble avec tes rachetés, nous cheminons vers ta cité. De savoir devant nous rassemble la gloire qui couronne nos parcours. Le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas.
Vous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de vie, c'est sur la 107.8, la radio Vie Nouvelle. Vous êtes à l'écoute de Au Rythme de Dieu. Au Rythme de Dieu depuis 20h30 jusqu'à 21h30 ce jour. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité qui honore davantage son peuple. Et votre présence continue chaque jour qui ne cesse de glorifier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui êtes bénis au travers de cette émission qui, nous espérons, vous permet véritablement de vous mettre sur le chemin, sur le pas avec le Seigneur Jésus-Christ, le pas vers l'enlèvement, les pas vers la sanctification, les pas également vers la glorification avec le Père. Ce soir, chers amis auditeurs, comme annoncé, nous allons parler de la jalousie. La jalousie dans toutes ses formes. Et nous allons être entretenus par le pasteur Emmanuel Koum. Mais déjà, pour dire que la jalousie est un sentiment qui, comme tel, prend sa source dans les cœurs et les motivations des uns et des autres. Également, cette jalousie est présente dans la Bible de part et d'autre. Le Seigneur, à un moment, a manifesté et l'a dit. Nous pouvons le lire dans Exode chapitre 20 et dans Deutéronome également, qu'il est un Dieu jaloux vis-à-vis de son peuple. Et le Seigneur également, Jésus-Christ, a manifesté sa jalousie envers, cette fois-là, la maison de son père, qui était une maison de prière, en chassant les vendeurs, qu'il appelait des brigands. Or, également, c'est par jalousie que Myriam, et la sœur de Moïse et Aaron se sont levés contre Moïse et ont été ainsi frappés par la main de Dieu. La jalousie, donc, un sentiment positif, un sentiment quelquefois aussi négatif. Nous allons en parler ce soir, très rapidement. On peut le dire, pasteur Emmanuel Koum, comme on l'a dit, c'est un sentiment comme tout autre, mais c'est un sentiment suffisamment particulier et qui justifie le fait que nous en parlons aujourd'hui. Donc, on va parler de où est-ce qu'il prend ses racines. Et comment est-ce qu'il se vit effectivement?
Oui, c'est vrai que nous n'abandonnons pas trop dans la jalousie divine, qui est
une jalousie positive.
Vraiment super positive, qui nous amène au zèle pour l'éternel. Et nous voulons parler de cette jalousie destructive, ce sentiment négatif qui amène l'homme qui est habité par lui, le sentiment, à être véritablement négatif, pour ne pas dire destructeur, autour de lui.
Et on peut se rappeler, en lisant la Bible, que le premier exemple de jalousie fut entre les fils d'Adam déjà, entre Caïn et Abel, pendant que Abel offrait un sacrifice qui était agréable à Dieu, Caïn était averti par Dieu et a dit à Caïn, fais attention car le péché tapisse au pied de ta porte. Il faut le dominer, ce sentiment qui l'a amené à agir d'une manière désagréable aux yeux de Dieu. Donc ce sentiment, William, déjà quand il trouve en soi un certain confort, une certaine disposition pour se manifester d'une manière ou d'une autre.
Oui, il est clair aussi que dans le cas de Caïn et Abel, on voit deux personnes qui reçoivent une instruction du Seigneur. L'un a adoré comme le Seigneur le voulait, c'est-à-dire en offrant un agneau, parce qu'il fallait que le sang couvre la faute. L'autre ne l'a pas fait. Et ayant maintenant étant arrivé à l'évidence que ce qu'il a fait n'était pas agréable à Dieu dans ce qu'il avait fait, le Seigneur aurait voulu que lui se répente et qu'il dise, voilà, je reconnais n'avoir pas fait comme il fallait. Et qui sait, Dieu l'a même montré comment est-ce qu'il devrait agir en mettant son frère devant de lui qui a montré la véritable façon d'adorer. Mais alors, au lieu de se plier aux exigences divines, il s'en prend plutôt à son frère. Et là, c'est une attitude en fait de... On voit ici la rébellion vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on refuse vraiment de se plier à la volonté de Dieu pour sa vie. Et quand on voit la jalousie, c'est un symptôme de plusieurs maux. Ça peut être un symptôme de rébellion. Ça peut être également un symptôme de manque de contentement. Ce que je vois, voilà le frère, je ne sais pas pourquoi lui, il est en train de construire une belle maison. Moi, je n'ai pas les moyens de construire. Tous les bien-aimés de mon âge sont déjà mariés, mais pourquoi moi est-ce que je ne le fais pas? Moi, je ne le suis pas. Or, si je suis vraiment dans les voies, dans les pensées divines, j'aurais de quoi me contenter et dire, voilà, le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour eux, tandis que pour moi, le Seigneur a une volonté spécifique autre. Alors, la jalousie vient ici un peu démontrer que le fait qu'on n'est pas en connexion véritable avec le Seigneur. Et dès que cette connexion n'est plus véritable, la jalousie n'est que l'une des manifestations en fait de cela.
Chers amis auditeurs, nous rappelons que vous êtes à l'écoute de Rythme de Dieu. Ce soir, nous parlons de la jalousie. Nous serons entretenus tout à l'heure par le pasteur Emmanuel Koum, mais déjà nous vous invitons à suivre cette plage musicale du groupe Shekinah. Shekinah, cette fois c'est avec H du côté de la RDC. Que Dieu vous bénisse.
Tu conduis vers des eaux paisibles.
voudrais habiter dans ton sanctuaire résidé afin d'être animé par tes sentiments. C'est le cri hein, élevé par le groupe Shekinah. Chers amis auditeurs, nous parlons ce soir de la jalousie. La jalousie destructive cette fois-là avec le pasteur Emmanuel Koum à qui nous donnons la parole pour nous entretenir. Et vous pourrez par la suite réagir hein, en envoyant les SMS ou alors en appelant 77 96 29 29. 77 96 29 29, c'est le code d'accès à cette émission et que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez le pasteur Emmanuel Koum.
Oui, bonsoir tout le monde une fois encore et nous rendons grâce au Seigneur qui nous a permis d'être ensemble. Très souvent, nous sommes habités par des sentiments, la jalousie, l'hypocrisie, et puis beaucoup d'autres encore qui sont néfastes véritablement dans la maison de l'Éternel, qui sont néfastes et qui habitent toute qualité de personne. Les rois, les leaders spirituels, les frères et les sœurs, et peut-être qui t'a habité ou t'habite encore profondément. Et nous allons voir combien ce sentiment, quand il habite quelqu'un, il peut être destructeur, il peut être vraiment créer des problèmes dans la vie de l'Église. Et nous allons voir quelques exemples de jalousie, nous ne prendrons pas tous les exemples, parce que comme nous disions, c'est le premier sentiment qui est né au jardin et qui a généré le meurtre. Hein? Nous allons peut-être voir déjà commencer par la jalousie d'Hérode pour parler de la jalousie de ceux qui sont des grandes personnalités, des leaders politiques tels que nous les voyons aujourd'hui et qui amènent des gens à pouvoir tuer les autres, à pouvoir comme nous le voyons. Mais nous voulons déjà dire à tous les bien-aimés que chacun de nous, à chacun de nous, il a été donné à la mesure de la volonté de Dieu, à la mesure du don de Dieu. Il y en a qui sont parmi nous riches, il y en a qui seront pauvres. Il y en a qui seront moins nantis, il y en a qui rouleront dans des grosses voitures, il y en a qui rouleront dans des petites voitures. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il y en a qui seront des leaders, il y en a qui ne seront pas des leaders. Si chacun de nous pouvait se contenter de sa place et de ce que Dieu lui a donné, il se sentirait vraiment être riche, parce que la grâce de Dieu accompagnant chacun, il donnera à chacun selon son besoin. Et la Bible déclare que celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui a ramassé peu ne manquait de rien. Mais seulement nous avons toujours envie d'être à la place de l'autre. Et c'est ça qui nous amène parfois à développer des sentiments d'hypocrisie, de jalousie et d'autres encore qui habitent et ont habité beaucoup de chrétiens. Alors nous pouvons prendre un peu l'exemple d'Hérode. La Bible dit que
Matthieu chapitre 2 verset 1 à 8, Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. À ces nouvelles, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Et ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car il est écrit par le prophète: et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer.
Bon, on comprend que c'est un sentiment qui habite les leaders politiques, qui habite même les dirigeants de famille, de village, tout simplement parce que nous, comme avec Hérode, on a la volonté de dominer, la volonté d'être le seul coq dans une nation, le seul coq dans une famille, et on est tellement accroché au bien. Hérode ne savait même pas quel genre de roi devait naître. Et quand on regarde un peu l'âge d'Hérode, et on voit l'âge de celui qui vient de naître, nous nous rendrons compte que certainement Hérode serait mort si Jésus avait même à devenir roi en Israël. Mais là, c'était pas son problème. Le problème d'Hérode, c'était que il y avait un concurrent, il y avait de la compétition qui était née. Alors, la jalousie est montée au dedans de lui, il fallait absolument détruire. Parce qu'en fait, il était accroché à la royauté. Nous voyons un peu l'image des présidents africains aujourd'hui qui n'acceptent jamais qu'il y ait un concurrent, même s'ils ont 77 ans, même s'ils ont 80, ils préfèrent mourir là, moribond, que de permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir prendre leur place. Et nous voyons toute forme de lutte dans nos nations aujourd'hui, nous voyons toute leur forme de guerre. Et quand on compare un peu avec les nations dites évoluées, on se rend compte que pendant les campagnes électorales, ils se font véritablement la guerre verbale, parfois même des agressions, mais dès que la campagne est finie, ils deviennent des bons amis et peuvent même être ensemble comme Hillary Clinton et puis Barack Obama, parce qu'en réalité, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de pouvoir, d'abord, c'est un problème d'une nation, c'est un problème d'un peuple qui avance ensemble. Mais nous voyons chez les Africains, nous voyons chez dans certaines nations européennes, nous voyons parmi les enfants de Dieu, des gens qui refusent toute concurrence, qui refusent toute influence d'une autre personne dans le milieu dans lequel ils sont. Ils ont seul la volonté de dominer, la volonté de s'accrocher au bien. Je me rappelle un monsieur qui était un directeur dans une société, et dans sa société, il avait un chef-service. Alors, il s'est acheté une voiture. Et son chef-service aussi a eu le toupet de s'acheter la même qualité de voiture qui était même un peu plus belle que la voiture de son chef parce qu'il y avait quelques éléments de beauté que le gars a ajouté. C'était juste un cheval qu'il a mis ou quelque chose. Alors, le look était mieux que le look de la voiture. Non, mais ça lui a valu des problèmes qui l'ont pratiquement amené au renvoi. Juste un problème de voiture. Parce que dans la société dans laquelle ils étaient, personne ne devait être à la même position que lui. Et c'est pour ça que vous allez voir dans certaines sociétés, qui ne sont même pas des sociétés de ces personnes, quelqu'un refuserait de faire avancer les employés qui sont au-dessous de lui, tout simplement parce qu'il doit trôner seul avec un gros salaire très haut, et le reste devra venir en bas. Un jour, je demandais à un de ces messieurs que si tu permets que ceux qui travaillent avec toi avancent en salaire, est-ce que c'est ton salaire qu'on va prendre? Est-ce qu'on prendra de l'argent de ton argent? Mais si tout le monde pouvait être riche, où est ton problème là-dedans? Si tout le monde pouvait avoir, où est ton problème là-dedans? Nous vendons la jalousie des gens qui refusent toute compétition, qui ont un culte d'influence, un culte de domination, qui sont accrochés au bien, qui sont accrochés à la direction des choses et qui ne voudront jamais voir d'autres évoluer. Et quand nous avançons toujours dans le sens de ce leadership, nous pouvons voir dans le milieu chrétien que c'est la même chose qui se passe. Et je suis sûr, bien aimé, que si tu ne fais pas attention, tu n'es pas loin de ceux qui sont jaloux des autres. Nous lisons par exemple dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 29.
L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de moi 70 des anciens d'Israël et ceux que tu connais comme anciens et officiers du peuple. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils se tiennent debout avec toi. Je descendrai et là je parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande quand nous étions bien en Égypte? L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle soit indigeste, parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous n'avez pas pleuré devant lui en disant, pourquoi donc nous ne sommes pas morts?
Verset 25.
Verset 25, la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuit et lui parla. Il prit de l'esprit qui était sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, l'un nommé Elad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp. Et l'esprit reposa sur eux, car ils étaient parmi les inscrits. Cependant, ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils se mirent à prophétiser dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse et dit, « Elad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, assistant de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veut l'Éternel mettre son esprit sur eux. »
La personne même qui devait réagir, parce qu'autour de lui, déjà, il y a 70 personnes qui, comme nous le verrons avec Marie, et Marie, la sœur de Moïse, deviendront des compétiteurs, des concurrents potentiels de Moïse, qui pourront, comme dira Marie, est-ce que Dieu parle seulement par la bouche de Moïse ? Ils ne se sont pas élevés contre ces personnes qui sont en train de prophétiser. Mais Josué, bien sûr qu'il est le potentiel leader, parce qu'il est avec Moïse depuis sa jeunesse. Nous avons vu que même quand Moïse va à la montagne, à la rencontre de l'Éternel, c'est Moïse qui l'amène. Donc, c'est Josué, s'il vous plaît, qui l'amène. Donc, c'est la personne qui était potentiellement appelée et qui l'a bien remplacée pour pouvoir remplacer Moïse. Et là, maintenant, il y a 70 qui parlent, deux autres parlent. Il dit non, il faut les arrêter. Parce qu'il sent qu'à côté de lui, il y a beaucoup de personnes qui auront le même esprit que lui si Moïse partait, qui pourront agir comme lui, qui pourront parler comme lui. Mais oh bien-aimé, si tout le monde parle en langue, où est ton problème? Si tout le monde prophétise, mais ton problème est où? C'est l'esprit du Seigneur, c'est pas le tien. Si dans ton église, tout le monde est riche, ton problème est où? Si dans ton église, tout le monde, je ne sais pas moi, la voiture, où est ton problème là-dedans? C'est pas ton argent, c'est l'argent de l'Éternel. Mais nous voyons Josué qui, déjà, veut avoir le leadership pour lui tout seul. Il ne veut pas quelqu'un d'autre autour de lui. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui est responsable de jeûne ou bien quelqu'un qui est responsable de louange et subitement une jeune fille qui chante mieux que la personne arrive. Et cette personne se rend immédiatement compte que de la compétition, de la concurrence est à côté. La jalousie va entrer dans son cœur. Et il faudra absolument éteindre cette étoile du Seigneur. Il faut absolument éteindre ce frère jeune tel qu'il est. Mais quand il prend la parole de prédication, toute l'église est d'accord. Toute l'église est contente. Ben, le pasteur va se dire, comme Saül a dit, donc moi j'ai tué seulement une seule personne. Et puis David en a tué 1000. Non. Là, ça devient véritablement difficile. Et là, c'est la jalousie du leadership. On veut seulement être le seul leader. Et là, on va tout faire pour éteindre la vie de Dieu dans les autres personnes. On ne voudra pas voir quelqu'un d'autre qui voudra s'élever, qui pourra parler du Seigneur, ou quelqu'un d'autre qui crée une communauté à côté dans laquelle la gloire de Dieu se manifeste. Ça me rappelle un livre que j'ai lu où un frère a été transporté au ciel et il a rencontré un autre qui était supposé être un homme de Dieu puissant sur la terre. Mais il se rend compte que cet homme au ciel n'avait pas eu suffisamment de couronne par rapport à d'autres personnes. Et quand il s'approche de ce frère, il dit que ce qu'il a eu, il l'a mérité. Parce que quand il était sur la terre, son ministère était bien sûr florissant, mais il faisait toujours tout pour lancer un commérage quand le ministère d'une autre personne était en train de naître. Il faisait tout pour pouvoir détruire un frère, une sœur qui recevait une qualité spirituelle du Seigneur parce que c'est lui seul qui devait être devant comme Josué, tel que nous sommes en train de le voir. Et bien aimé, c'est sûr que ce genre de sentiments t'est habité parce que tu as prié que tu puisses trouver un travail. Mais tu te demandes pourquoi c'est l'autre frère qui a trouvé un travail et qui est devenu directeur. Bien sûr, tu vas dire immédiatement qu'il a fait la corruption. Tu es en train de chercher l'examen depuis. Combien de frères ou de sœurs dans une communauté pourront accepter qu'ils ont une fille à la maison, une ou deux filles, hein, une maman? Vois les filles des autres en train de se marier. Vois les enfants des autres en train de trouver du bon travail. Vois les enfants des autres en train de réussir dans leur voie.
et on te demande de continuer à prier pour eux. Non, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont prier pour ces personnes. Mais ces personnes vont certainement se lever et commencer à trouver que derrière le succès de ces personnes, il y a quelque chose d'autre. Et beaucoup de frères ont ainsi inventé des histoires malencontreuses et des histoires méchantes contre tel frère qui a réussi dans ses voies, contre tel frère que le Seigneur a béni. Je me rappelle comme ça un frère dans une de nos églises, qui est une église vraiment réveillée, que le Seigneur avait vraiment béni. Et dans toute l'église, il était même ancien d'église, dans toute l'église, il se disait que ce frère était un Rosicrucien. Et quand il prenait la parole pour prêcher, on disait, il prêche bien, mais son argent, vous ne savez pas d'où vient son argent. Et ça fait donc qu'on a créé un sentiment négatif autour de ce frère et tout ce qu'il écoutait avait quelque chose contre lui. Mais est-ce que ça empêchait Dieu de le bénir? Non. Il a plutôt évolué dans la grâce du Seigneur et aujourd'hui il est béni. Qu'on soit jaloux de lui ou qu'on soit pas jaloux de lui, ça ne change rien dans la personne de ce frère. Bien-aimé, que tu sois jaloux, que tu sois content, que tu sois fâché, ça ne change rien. Et c'est ce que je dis souvent aux païens, ce que je te dis maintenant. Que tu dises que Dieu est bon, ça ne change rien à la sainteté de Dieu. Que tu dises que Dieu est méchant, ça ne change rien à la sainteté de Dieu. Que tu dises qu'un frère voleur, s'il ne l'est pas, ça ne change rien à la richesse qu'il a. Si tu dis qu'il est béni de Dieu, ça ne change rien à la richesse qu'il a. Si tu dis que c'est un fémin, ça ne change rien à la richesse et à la bénédiction que le Seigneur lui a donnée. La seule chose que tu dois faire, c'est de bénir le Seigneur. Et je le dis souvent aux gens, il vaut mieux marcher avec celui que Dieu a béni que de t'élever contre celui que Dieu a béni. Ça me rappelle ce que Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni et celui qui te maudira sera maudit. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont maudits parce qu'ils maudissent ce que Dieu a béni. Nous avons vu l'histoire de Balaam. Dieu demande à Balaam, est-ce qu'on peut maudire celui que Dieu a béni? C'est pas possible. Donc, bien-aimé, voilà donc Josué qui se retrouve dans une situation où il est repris durement par Moïse. Veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux, même sur tout le camp. Où est le problème? Hein? Où est le problème? Si tout le peuple de Dieu, il dit, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. Où est le problème? Que tout Israël soit composé de prophètes. Le problème de Josué est là. Où est-ce que c'est son esprit? C'est l'esprit de Dieu. Et bien aimé, on a donc détruit tout l'effort qu'il y a dans la vie des autres. Tout ce qu'on va faire, c'est de créer par des moyens de persuasion. Et c'est ça qui est souvent très difficile. Tu es en train de te lever pour devenir un serviteur de l'Éternel. Quelqu'un va venir vers toi pour te dire, est-ce que tu es sûr que ton temps pour te lever est arrivé? Tout simplement parce qu'il voit en toi une gloire que le Seigneur a déposée en toi et il n'est pas d'accord. Et ou bien on crée un mensonge autour de toi pour pouvoir démontrer qu'en réalité, tu n'es pas ce que tu dis être. Ou bien on envoie un commérage pour pouvoir détruire tout ce que tu es en train de faire à cause de la jalousie. La jalousie du leadership, c'est moi seul qui dois être vu par quelqu'un d'autre. Bien aimé, tu l'as vu, une sœur qui est bien habillée, tu as commencé à mal parler d'elle. Il sort avec un garçon. C'est des choses qui sont arrivées dans les communautés et c'est des sentiments qui, si ce sentiment ne t'habite pas maintenant, ne sois pas celui qui ne pourra pas t'habiter à un moment ou à un autre. À partir du moment où tu te sentiras être blasé, tu es sûr que quelque chose de mal pourra t'arriver. Marie dira, Dieu parlera aussi par ma bouche. À cause de l'esprit de compétition et de l'esprit de concurrence. Nous avons donc parlé de ce sentiment dans le cadre politique, dans le cadre spirituel, qui habite les leaders spirituels. Et Josué n'était pas n'importe qui devant le Seigneur. Et je crois que cette leçon a porté. Parce que plus tard, Josué ne marchera plus et ne fera plus ces genres d'erreurs. Plus puisse le Seigneur t'amener à porter. Beaucoup de frères dans l'église sont déjà incapables. C'est des types paresseux. Nous allons lire un peu dans Samuel, 1 Samuel chapitre 18, versets 6 à 9. Ça dit par ceux à qui Dieu a donné un certain potentiel, mais ils ne sont pas prêts à utiliser leur potentiel. Et quand une autre personne est là en train d'utiliser son potentiel dans la prière, dans le jeûne, et surtout dans l'œuvre de Dieu, ou alors dans sa débrouillardise, comme dirait un petit Camerounais, il qu'il commence à être jaloux. 1 Samuel chapitre 18, verset 6 à 9.
Au moment où les gens rentraient lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes en Israël en chantant et dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triomphes. Les femmes se répondaient en riant les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Une très grande colère s'empara de Saül qui prit mal la chose. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. »
Une grande colère. Vous voyez bien aimé la jalousie qui entre immédiatement dans la vie de Saül, un incapable qui devait tuer Salomon, le roi qui devait tuer Goliath. C'était Saül, ce n'était pas David. La Bible dit que David, Saül dépassait tout Israël de 20 coups, si je me trompe. Il était plus grand que tout Israël. Donc déjà par taille, il était presque le concurrent de Goliath. La Bible déclare que Saül avait derrière lui le Dieu des armées. Et il n'a pas su utiliser la puissance du Dieu des armées. Dès que Goliath se lève, Saül, comme tous les autres, prend peur. Au départ, il dit qu'il veut, mais quand il a vu Goliath, la peur envahit son cœur et il s'en va s'asseoir. Un incapable qui avait avec lui l'armée du Dieu vivant, mais qui n'était pas capable de pouvoir agir avec l'armée du Dieu vivant. Et quand un petit David arrive, qui va donc utiliser l'arme que lui, Saül, n'a pas pu utiliser, il s'en va vers Goliath et lui dit, tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Et Dieu lui donne la puissance de la victoire. Et voilà maintenant Saül qui, lui, aurait dû vaincre Goliath, devient jaloux. Vous n'allez pas imaginer des frères qui sont incapables. Quelqu'un a le bac, quelqu'un a la licence, il est toujours là à l'église, il ne commence même pas par vendre la tomate au marché afin que Dieu voit son humilité et puisse le lever. Il est seulement là en train de vouloir chercher à être directeur. Et quand quelqu'un va commencer à faire des petites choses et le Seigneur va l'élever, il va commencer à être jaloux. Quand quelqu'un va commencer à faire des petites entreprises et plus tard le Seigneur va le bénir, pardon, il va commencer à être jaloux. Vous voyez des frères et des sœurs qui sont dans l'église, ils ne font rien. Le Seigneur nous demande de mettre en pratique sa parole. Il dit la religion pure, c'est de rendre visite aux malades, de prendre soin des orphelins et de tout ça. Tu es là toujours, c'est toi qui te plains qu'on ne te rend pas visite. C'est toi qui te plains que le pauvre ne se prend pas soin de toi. Mais quelqu'un, le Seigneur voit, il pose son œil sur un frère qui passe son temps à prendre soin des autres, qui prend son temps à participer à la tourée et à la souffrance des autres, qui passe son temps à entretenir les frères, et le Seigneur commence à relâcher la bénédiction sur ce frère. Toi qui es là, tu dors dans ton lit, tu ne sais même pas que le Seigneur a dit à celui qui n'en a pas, on prendra, on enlèvera et on donnera à celui qui a, pour qu'il soit encore plus dans l'abondance. Comme je disais à un frère un jour, qui me demandait, comment est-ce que tu fais pour passer ton temps, matin, midi et soir, à marcher pour l'œuvre du Seigneur? Je dis, quand tu dors chez toi, tu fais la sieste, le Seigneur prend ton énergie spirituelle et me donne. Il croyait que je m'amusais, il arrive.
Tu trouves que c'est trop moins cher?
Oui, c'est trop moins cher.
C'est le point, hein? C'est ça, hein? C'est oh! Plus. La clé. Ah, ça, ça veut dire que je vais 17 000.
Sur nos lendemains, pas à pas la main dans sa main. L'heureux voyage des pèlerins, ensemble avec tes rachetés. Nous cheminons vers ta cité, de savoir devant nous rassure. La gloire qui couronne nos parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains, pas à pas la main dans sa main. Le grand voyage du pèlerin, ensemble avec tes rachetés.
Nous vous rappelons que vous êtes sur la radio du Nouvelle Afrique de la 107.8, chers amis auditeurs. Nous nous excusons pour cette interruption, pour des raisons indépendantes de votre volonté. Nous avons eu une coupure. Nous allons donc très rapidement repartir avec repartir avec le message tout à l'heure, tout en vous présentant toutes nos excuses pour ces interruptions dues à des raisons indépendantes de notre volonté. Donc, très rapidement, nous passons la parole au pasteur Emmanuel Koumou.
Alors, nous disons des gens qui sont incapables, qui ne veulent pas remuer le petit doigt, mais qui, à la fin, commencent à ne pas être contents du succès des autres. Et on commence à parler du mal des autres, parce qu'on voit les autres évoluer. Et je connais beaucoup de frères que les églises ont aidés pour leur permettre de pouvoir se lancer dans une activité. Mais dès qu'on leur donne déjà des capacités de pouvoir se lancer, ils font déjà des projets de millions de francs. Au lieu de commencer par le plus petit, laisser Dieu te bénir dans le peu que tu as. Comme nous avons vu dans notre méditation de ce matin, la femme qui demande à Élisée de venir à son secours, qu'est-ce que tu as? Un peu d'huile. Et de ce peu d'huile, Élisée lui a donné la capacité. Il dit même, mets les outres partout dans ta maison. Et dès que les outres étaient finies, la bénédiction aussi s'est arrêtée. Mais il a fallu que cette femme fasse aussi quelque chose, qu'elle aille chercher les outres et qu'elle aille vendre l'huile au marché. Il y avait la foi en ce que Élisée lui a dit, mais il y avait aussi son travail personnel pour pouvoir arriver. Hein? Mais nous, on est là, on est assis, on veut que le Dieu de bénédiction fasse tomber le pain du ciel et qu'il fasse tout pour nous sans que nous ayons à remuer le petit doigt. Je dis que ce n'est pas par notre effort que nous pouvons y arriver, mais il faut que Dieu voit que nous ne sommes pas des paresseux, comme l'apôtre Paul a dit lui-même, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et Dieu va commencer à nous bénir dans le peu que nous sommes. Je sais qu'on a fait des grosses études, on est des ingénieurs, on est tout, mais on peut commencer aussi par un niveau bas pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et quand donc on n'arrive pas à réussir, on commence à être jaloux des autres. C'est Saül qui devait lutter contre Goliath, pas quelqu'un d'autre. Nous avons parlé à l'introduction de la jalousie de Caïn et de toutes ces choses. Bien aimé, la jalousie fait naître beaucoup de sentiments et des sentiments destructeurs. Nous allons le voir avec tous ceux qui ont été habités par ce sentiment de jalousie. Si nous prenons le cas d'Hérode, dans Matthieu chapitre 2, verset 8, que nous avons lu Matthieu 2, nous allons voir que Hérode était un hypocrite. Vous aussi, allez le chercher, et si vous le trouvez, vous venez me dire, moi aussi j'irai l'adorer. Ça, c'est la réalité. Tu es jaloux d'un frère à l'église, c'est toi qui lui donnes le plus gros bonjour et qui lui apporte le plus gros câlin qui n'a jamais existé. Et tu t'arraches à être son ami parce que tu veux en réalité sonder la personne pour savoir les origines de ces choses, afin de pouvoir mal parler de lui. Et c'est toi qui, pendant que tu l'encourages, es encore en train de dire le contraire de ce que tu dis devant lui à d'autres personnes. Frère, c'est des choses que nous avons vues, c'est des choses que nous connaissons et c'est des choses que tu fais. Tu bénis le frère devant lui et tu le détruis derrière, tout simplement parce que tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord de la grâce que le Seigneur lui a donnée. Et tu vis donc une vie véritablement d'hypocrisie. Et beaucoup sont comme ça dans les communautés, ils sont des hypocrites. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme ça parce qu'ils sont jaloux des autres et deviennent de véritables hypocrites. Et parfois même des prophéties d'hypocrites sortent pour pouvoir démontrer que ce frère, il est voleur, il est menteur, il est tout ce qu'on veut. Et la Bible nous dit que la haine véritable, comme on a vu avec le livre de Samuel au chapitre 18, verset 9, Saül était pris de haine contre David. Voilà un autre sentiment qui habite les gens, qui sont pris de jalousie dans les communautés. Et ça, nous le voyons. La haine qui va amener les Juifs à pouvoir tuer Jésus. Quand on lit dans le livre de Marc, au chapitre 15, versets 9 à 11, nous allons voir que non pas seulement Saül, qui était habité d'un sentiment de haine, un sentiment de haine destructeur vis-à-vis de David, mais nous avons vu les pharisiens aussi. Dans Marc 15, verset 9 à 11.
Car il savait que c'était par jalousie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les principaux sacrificateurs soulevèrent la foule pour que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas.
Pilate savait que c'est par jalousie qu'on voulait tuer Jésus. C'est vrai qu'on va dire que Jésus est mort, est mort, est mort. Mais c'est la jalousie qui était le sentiment moteur qui poussera les pharisiens à pouvoir tuer Jésus. Et de la jalousie est né le soulèvement. Ils vont créer un soulèvement contre Jésus pour pouvoir tuer Jésus. Et c'est la jalousie qui était le sentiment moteur qui poussera Saül à poursuivre David partout. Nous pouvons donc voir que la jalousie est un sentiment qui est véritablement le sentiment moteur. Et c'est lui qui poussera donc Hérode maintenant à tuer les enfants parce qu'il n'aura pas trouvé Jésus. Caïn a tué Abel tout simplement parce qu'il n'a pas pu rendre le sacrifice que Dieu voulait et les frères de Joseph à pouvoir le vendre. C'est la jalousie qui a créé ce sentiment de jalousie qui était le moteur du meurtre, de la haine, de l'hypocrisie, du soulèvement dans la vie de tous ceux qui ont été habités par ce sentiment. Bien-aimé, peut-être tu es pris de haine, de jalousie, d'hypocrisie vis-à-vis de quelqu'un. Vérifie si derrière il n'y a pas la jalousie. Vérifie si tout ce que tu dis du mal contre l'autre n'a pas pour fondement la jalousie. Et nous voyons comment la jalousie peut même faire courir un faux bruit. Quand nous voyons un peu dans le livre de Jean, chapitre 21, verset 23, la Bible dit que Pierre, je crois que là, pris de jalousie, fait courir un bruit parce que lui, il a entendu le contraire, il a voulu entendre ce qu'il a entendu, mais Jésus lui l'a dit, ce qu'il a dit par rapport à Jean. Jésus a dit une chose, Pierre a entendu une autre. Tout simplement parce que il voulait entendre ce que lui il avait dans la tête. Et en réalité, c'est ça les gens qui sont jaloux. Ils veulent toujours, ils entendent toujours ce que eux ils ont dans leur tête. Ils entendent toujours leurs conclusions. Ils ne comprennent que leurs conclusions. J'ai connu un frère comme ça qui avait des problèmes avec un autre, avec une sœur. Et voilà, on était en train de l'encourager à pouvoir aller se réconcilier. Il dit partout que, bon, on me force à pouvoir récupérer la sœur. Mais tout simplement parce que lui, il entend ce qu'il veut entendre. Il n'entend pas qu'il faut être en paix avec quelqu'un. Il entend plutôt autre chose. Parce que c'est des sentiments qui déforment et qui dénaturent la pensée de quelqu'un, l'expression de la vie d'une personne. Bien-aimé, Dieu nous a créés, mais il ne nous a pas donné à tous d'être des riches. Il ne nous a pas donné à tous de rouler dans les grandes voitures. Il ne nous a pas donné à tous. Il y aura toujours des pauvres parmi vous. Jésus disait encore à ses disciples. Il y aura toujours des riches parmi vous. Mais l'abondance des uns est venue pour combler la pauvreté des autres. Et celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop. Le problème, c'est que tu veux ramasser beaucoup alors qu'il t'a été donné de ramasser peu. Mais contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Contente-toi de l'esprit que Dieu a posé sur toi. Si tu n'es pas un grand prédicateur, ne cherche pas à l'être. Si tu as seulement de Dieu le pouvoir de chasser des démons, tu n'es pas un prédicateur. Si tu as de Dieu le pouvoir de guérir les malades, tu n'es pas quelqu'un qui chasse les démons. Que chacun reste à sa place et que chacun se contente de ce que Dieu lui a donné. Alors ces sentiments ne naîtront pas d'hypocrisie, de jalousie pour pouvoir détruire l'église de Dieu, pour pouvoir détruire l'œuvre du Seigneur. La Bible nous enseigne que le jaloux souffre beaucoup. Hérode est troublé et tout Israël avec lui. Un roi va naître. Quelqu'un va venir me remplacer. Et il est totalement troublé. Un frère a autant de talent dans la communauté dont il peut faire des choses mieux que moi. Et voilà que tu es totalement troublé. Tu n'arrives plus à dormir. Pourquoi c'est cette famille qui réussit? Est-ce que moi je suis si pécheur que toutes mes prières, le Seigneur ne les exauce pas? Et te voilà troublé, tu ne dors plus la nuit. Tout simplement parce que dans ton sommeil, il n'y a que ce frère, il n'y a que ce pasteur, il n'y a que ce... Ce n'est que lui qui revient, qui revient, qui revient. Tu n'arrives pas à dormir. Saül ne dormait plus. Il est obligé de quitter son palais pour aller dormir dans les cavernes, des pierres, tout simplement parce qu'il fallait absolument éliminer David. Nous comprenons pourquoi Esaïe dira, point de paix pour le méchant. Le méchant est comme une mère agitée. Il n'y a point de paix pour le méchant. Le jaloux souffre beaucoup. Le jaloux n'a pas la paix. Le Seigneur nous a appelé à entrer dans son repos et à nous contenter de ce que nous avons, à nous contenter du don que nous avons, à ne pas chercher à être comme les autres, mais que notre faiblesse puisse participer à leur force et que leur force puisse participer à notre faiblesse. Bien aimé, c'est vrai que ceux qui subissent les personnes jalouses aussi parfois souffrent beaucoup. Jésus doit fuir Hérode. David doit fuir David et Saül. Même quand il ne peut pas être capable de porter la main sur Saül, Caïn doit mourir gratuitement. Parfois leurs jalousies finiront par t'atteindre. Joseph doit souffrir pendant pratiquement 13 ans gratuitement parce que ses frères étaient jaloux de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Rien que remettre les rêves que le Seigneur lui a donnés. Rien que participer à l'amour que son père est en train de lui donner. Et quand on regarde même le mauvais comportement de ses frères, qui n'encourageait pas le père à pouvoir, nous nous rappelons de ce que Judas et les autres ont fait à Sukkot. Ils ont tué carrément des habitants de Sukkot gratuitement, comme ça. Cela ne pouvait pas plaire à Jacob. Bien-aimé, tu ne travailles même pas pour que l'amour de Dieu soit manifesté dans ta vie. Tu ne travailles même pas pour appeler les bénédictions de Dieu dans ta vie, mais tu es jaloux de celui qui est béni, sans que tu ne te rendes compte de toute l'humilité, de tout le rabaissement qu'il a devant le Seigneur. C'est vrai que celui qui est poursuivi par la jalousie des autres doit souffrir. Beaucoup de frères sont devenus errants à cause de la jalousie des autres. Il doit fuir. Il doit souffrir en prison, comme Joseph. Ils doivent souffrir de fouet, comme Jésus. Jusqu'au moment où le jaloux ou la jalousie du jaloux fera sa victime, comme Caïn a tué son frère et Hérode a tué ses enfants gratuitement. Parfois, c'est le jaloux lui-même qui est victime de sa propre vie, comme Saül. Bien-aimé, nous voulons dire que si tu es poursuivi par la jalousie de quelqu'un, prie le Seigneur. Parce que Dieu peut te protéger comme il a protégé Jésus avec Hérode, mais il a laissé mourir avec les pharisiens. Dieu va multiplier tes bénédictions, la gloire de Dieu se reposera sur toi, même après ta mort. Parce que la jalousie des autres peut t'atteindre véritablement. Et même que tes frères dans la communauté peuvent envoyer des gens pour te tuer. C'est un sentiment qui est très mauvais. S'il t'habite, libère-toi de lui. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur Jésus, tu es Dieu depuis l'éternité. Tu as revêtu la nature humaine pour sauver l'humanité. Et tu as fait de nous un peuple à la louange de ta gloire. Nous voici dans ta présence, Seigneur, pour t'offrir la raison de notre existence. Alléluia.
Il a fait de nous un royaume de sacrifice.
There are those of them that dwell with the angels you see. Be glory to the Lord, glory to the name, you are worthy to be praised. Oh, bénissons le Seigneur qui ce soir encore nous instruit par rapport à ce sentiment donc ô combien important pour notre marche avec lui au quotidien, afin de ne point s'embarrasser de ces choses qui nous empêchent de pouvoir véritablement prendre de l'envol avec lui. La jalousie, cher ami auditeur, ce soir, tu as reçu l'interpellation du Seigneur, hein, et nous pensons et croyons véritablement que tu as été béni. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission en ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de vous entretenir pendant ces instants. Vous avez une préoccupation, nous vous demandons d'appeler le pasteur Emmanuel Koum. Vous pouvez l'appeler au 94 35 44 54, 94 35 44 54, ou alors au 70 78 87. Nous bénissons le Seigneur donc pour ces moments. Avant de terminer, quelques annonces déjà.
Oui, nous voulons juste dire au peuple de Dieu que nous avons au-dessus, au troisième niveau de notre immeuble, des appartements de passage, des cases de passage, hein, climatisées avec ventilation. Hein, c'est deux appartements de deux chambres et une douche, et super moderne. Donc si vous avez, c'est pour les pasteurs de passage, les missionnaires, ou bien des gens qui veulent faire des retraites. Donc si vous êtes intéressé, vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez venir nous voir.
Également, campagne d'évangélisation ce jeudi, vendredi, samedi. Ce sera à Fin Goudron Omnisport, jeudi, vendredi, samedi de cette semaine. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de passer ce moment avec vous à la prise de son ce soir à Noengachu sur ce plateau. Le pasteur Emmanuel Koum et William Domcha qui nous souhaitent encore une fois de plus la bienvenue. J'étais Guy Augustin Kento. Mardi prochain sera un autre jour par sa grâce et que Dieu vous bénisse, chers auditeurs.
Au rythme de Dieu, la communauté CBC Makepe, sous la direction de son pasteur Emmanuel Koum, vous convie tous les mardis entre 20h30 et 21h30 à une réflexion sur la vie chrétienne aujourd'hui. Au rythme de Dieu, c'est les messages, prédications, enseignements, débats, conférences, interactivités, le tout arrosé par de la très bonne musique. Notez le rendez-vous mardi 20h30, 21h30. Venez et ensemble, marchons à la suite de Jésus.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, un nouveau rendez-vous du Club de Noctambule sur la fréquence de vie. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette émission, tous les mardis et tous les vendredis de 21h30 à 22h30. Ce soir, nous terminerons avec Philippe Yancé dans son livre « Déçu par Dieu ». À la mise en œuvre de cette émission, Barnabé Bobé, à ce micro de présentation presque en galamment. Nous allons souffler en musique le temps de mieux nous installer.
À la droite.
passion. Le Seigneur a veillé nuit et d'ange, ange de don, en l'honneur de son nom. Ce chant de gloire avec force et gloire.
Là, nous explorions la vie de Job, la vie de Job, ses souffrances, ses plaintes, le discours de Job à l'endroit de Dieu. Et dans le livre de Job, au chapitre 19, les versets 25 et 27, il est écrit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Pourquoi Job est-il mort heureux? Après une saga de tragédie et de malheur, de palpitations et de débats acharnés, d'un défi cosmique perdu et gagné, après tout cela, l'histoire de Job s'achève par une scène familiale, avec Job qui s'occupe de ses arrière-petits-enfants. Le tout dans une parfaite sérénité. Le livre donne un compte-rendu précis des biens qu'a retrouvé Job. 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 ânes et 10 nouveaux enfants. Cette fin heureuse frustre certains lecteurs, comme Elie Wiesel, qui a eu une fois le prix Nobel de la littérature. Pour lui, Job avait été un héros, un champion de la contestation contre les injustices de Dieu. Cependant, dit Wiesel, Job est rentré dans les rangs. Il n'aurait pas dû accepter cela de Dieu. La nouvelle prospérité, pour aussi abondante qu'elle soit, ne pouvait compenser la souffrance endurée par Job. Et les 10 enfants qui étaient décédés. Aucun parent n'imaginerait un instant que la nichée pleine de vie d'enfants suffirait à effacer le chagrin de la mort des premiers. Laissons Job donner son avis. Voici ce qu'il déclara après le majestueux discours de Dieu dans le tourbillon de vent. « Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. De toute évidence, ce que j'avais qualifié de non-réponse de Dieu avait pleinement satisfait Job. D'autre part, certains lecteurs présentent l'heureux dénouement comme la réponse finale à toute déception envers Dieu. Regardez, disent-ils, Dieu délivre son peuple de l'adversité. Il a rendu à Job la santé, ses richesses, et il agira de même pour chacun de nous si nous apprenons à lui faire confiance comme Job. Ces lecteurs négligent toutefois un détail important. Job avait prononcé ses paroles de repentir avant d'avoir reçu une compensation pour ses pertes. Il était encore assis sur un morceau de plâtrasse, nu, couvert de plaies. Ce fut dans ces circonstances qu'il apprit à louer Dieu. Une seule chose avait changé. Dieu avait donné à Job un aperçu du tableau général de la situation. J'ai une vague idée que Dieu aurait pu dire n'importe quoi. Il aurait pu en fait lire un extrait du beau temps mondain et cela aurait produit le même effet renversant sur Job. La teneur de ses propos importait moins, dans un certain sens, que le simple fait qu'il apparaisse. Dieu a répondu de façon spectaculaire à la plus grande question de Job. Y a-t-il quelqu'un là-haut? À peine Job avait-il eu un aperçu du monde invisible que toutes ces questions pressantes s'évanouirent. D'après le point de vue de Dieu, le réconfort de Job était, même si cela peut paraître dur, insignifiant, comparé aux problèmes cosmiques en jeu. Le véritable combat prit fin quand Job refusa d'abandonner la pensée de Dieu, faisant ainsi perdre son pari à Satan. Après cette rude victoire, Dieu s'empressa d'inonder Job de cadeaux. La douleur, je peux régler cela facilement. Plus d'enfants, des chameaux et des bœufs, pas de problème. Bien sûr, si tu veux que tu sois heureux, riche et éclatant de vie. Job, tu dois comprendre qu'il y avait là en jeu quelque chose de bien plus important que le bonheur. Mon ami Richard, qui considère toujours Job comme l'histoire la plus honnête de la Bible, réagit différemment face à son dénouement. Il le trouve inadéquat. Et il a pu dire, Job a vu Dieu personnellement et j'en suis heureux pour lui. Voilà ce que je demande depuis des années. Puisque Dieu ne m'a pas rendu visite, en quoi Job peut-il m'aider dans mes luttes? Je crois que Richard a mis le doigt sur une importante ligne de démarcation de la foi. En un sens, notre séjour sur terre ressemble à celui de Job avant que Dieu ne se présente à lui dans un tourbillon de vent. Nous aussi, nous vivons au milieu d'indices et de rumeurs dont certains témoignent contre un Dieu tout-puissant qui nous aime. Nous aussi, nous devons exercer la foi sans la moindre certitude. Richard se prosterna sur le plancher de son appartement, suppliant Dieu de se manifester, misant toute sa foi sur la révélation de Dieu dans le monde visible, comme il l'avait fait pour Job. Richard perdit sa mise. Franchement, je doute que Dieu se sente obligé de se révéler ainsi. Il l'a fait de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, plus d'une façon déterminante en la personne de Jésus. Quelle incarnation supplémentaire pouvons-nous bien lui réclamer? Je le dis avec prudence, mais je me demande si le défi farouche, obsédant de voir un miracle, même une guérison physique, ne trahit pas parfois un manque de foi plutôt qu'une abondance de foi. De telles prières peuvent, comme celle de Richard, poser des conditions à Dieu. Quand on aspire à la solution miraculeuse d'un problème, rendons-nous notre fidélité à Dieu tributaire d'une manifestation spécifique dans le monde visible. Si nous insistons pour avoir des preuves tangibles de Dieu, nous nous préparons peut-être à une vie de déception permanente. La foi véritable n'essaye pas tant de manipuler Dieu pour l'emmener à faire notre volonté qu'à nous mettre en position d'accomplir sa volonté. En cherchant dans la Bible des modèles d'une grande foi, j'ai été frappé par le petit nombre de saints qui ont goûté une expérience similaire à cette rencontre dramatique de Job avec Dieu. Les autres, quand Dieu s'est caché, ils ont réagi non en lui ordonnant de se montrer, mais en allant de l'avant et en croyant, même quand Dieu restait caché. Hébreux 11 fait remarquer à juste titre que les géants de la foi sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Nous, êtres humains, considérons instinctivement le monde visible comme le monde réel et le monde invisible comme le monde irréel. Mais la Bible inverse presque ces deux conceptions. Par la foi,
le monde invisible prend progressivement forme comme étant le monde réel, ce qui détermine le cours et la forme de notre vie dans le monde visible. Vivez pour Dieu, qui est invisible, et non pour les hommes, enseignait Jésus à propos du monde invisible ou du royaume de Dieu. Une fois, l'apôtre Paul posa directement la question de notre déception envers Dieu. Il dit aux Corinthiens que, malgré les tribulations invraisemblables, il ne désespérait pas. Lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un avant-goût du futur. Paul connut de grandes tribulations et mourut en martyr, toujours dans l'attente de sa récompense. Job supporta des épreuves, mais reçut une belle récompense dans cette vie. Que sommes-nous en droit d'attendre exactement de Dieu? Peut-être que la meilleure manière d'analyser la fin de Job, c'est de ne pas la voir comme une photocalque de ce qui nous arrivera dans cette vie, mais plutôt comme un signe de ce qui est à venir. Elle forme un symbole satisfaisant, une solution à la déception de l'homme, un avant-goût de l'avenir. En un sens, Elie Wiesel a raison. Les plaisirs qu'a savouré Job pendant ses vieux jours n'ont pas compensé les pertes subies auparavant. Même Job, heureux et rassasié de jour, est mort et a transmis le cycle de chagrin et de douleur à ses survivants. La pire de toutes les erreurs serait de conclure que Dieu se satisfait de quelques réajustements mineurs dans ce monde tragique et injuste. Certaines personnes misent leur foi sur un miracle, comme si un miracle avait le pouvoir d'éliminer toute déception envers Dieu. Non, il n'y parviendrait pas. Si j'avais rempli cet exposé de cas de guérison physique à la place de l'histoire de Richard, de Meg Woodson, de Douglas et de Job, cela ne résoudrait pas pour autant le problème de la déception envers Dieu. Quelque chose ne tourne vraiment pas rond sur cette planète. Une chose est certaine, nous mourrons tous. Le taux de mortalité est le même pour les athées et pour les saints. Les miracles servent de signes pour nous permettre d'avoir une idée de l'avenir. Ils stimulent notre appétit en éveillant le désir de quelque chose de plus, de quelque chose de permanent. Le bonheur de Job, dans ses vieux jours, n'était qu'un échantillon de ce dont il jouirait après la mort. La bonne nouvelle des derniers chapitres de Job et la bonne nouvelle de Pâques à la fin des évangiles sont les préludes à la bonne nouvelle décrite à la fin de l'Apocalypse. Ne courons pas le risque de perdre de vue le monde que Dieu désire. La promesse de Job 42 alors, c'est que Dieu redressera les torts qui affligent notre existence. Certaines souffrances, la mort des enfants de Job par exemple, ou la mort des enfants de Meg Woodson, ne guérissent jamais au cours de cette vie. Aucune parole de consolation ne peut atténuer le chagrin dans le cœur de Meg Woodson. Car ce chagrin a une forme précise, la forme de sa fille Peggy et de son fils Joey. Toutefois, à la fin des temps, ce chagrin aussi disparaîtra. Meg retrouvera sa fille et son fils dans leur corps éternel. Si je ne le croyais pas, si je ne croyais pas que Peggy et Joey Woodson respirent en ce moment même, à plein poumon, dansent et explorent de nouveaux mondes, alors je ne croirais en rien. J'aurais abandonné la foi depuis longtemps. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La Bible établit la réputation de Dieu sur sa capacité à vaincre le mal et à rendre aux cieux et à la terre leur perfection originelle. Si l'on exclut cet état futur, on pourrait accuser Dieu de manquer de puissance et d'amour. À ce jour, les visions de paix et de justice des prophètes ne se sont pas accomplies. On continue à fondre des charrues pour fabriquer des épées. la mort, avec ses nouvelles mutations horribles, le sida et le cancer. La mort engloutit sans arrêt des hommes, sans être englouti à son tour. C'est le mal et non le bien qui semble triompher. Toutefois, la Bible nous incite à regarder au-delà de la sombre réalité de l'histoire, le spectacle de l'éternité, quand le règne de Dieu remplira la terre de lumière et de vérité.
Sa sainteté, gloire et honneur à notre roi, son règne à tout jamais, force et puissance à notre Dieu, grande en fidélité, acclamée sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tout haut tes bienfaits, Éternel. Qui est comme toi? Qui est comme toi?
Magnifique est le Seigneur, prince libérateur, bienveillant et plein de bonté, le nom le plus élevé. Célébré soit notre Père, Dieu de tout l'univers, renommé sur toute la terre et dans les cieux. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Je redirai tous tes bienfaits, Éternel.